BFM Business, BFM Crypto, les pros. Amaury de Tonquédec.
Bonjour à tous, c'est les pros des cryptos. Merci d'être avec nous. On va refaire toute la semaine et il s'est passé beaucoup de choses. Claire Balva est avec nous. Bonjour Claire.
Bonjour Amaury.
Directrice de la stratégie chez Desbloc. Thibaut Boutroux est avec nous à distance, un cofondateur de Meria. Bonjour Thibaut. Petite
Bonjour,
pensée
Marie.
Pour Vincent Gann, analyste financier indépendant qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui mais qui nous avait prédit un Bitcoin à 100 000 $ avant le 13 décembre et on y est arrivé. Vincent, il est actuellement autour des 100 000 $ à l'instant où on se parle. On va revenir évidemment sur les chiffres clés du baromètre 2024 de Consensus. 91% des Français auraient entendu parler des cryptos et 50% comprendraient de quoi il s'agit, mais on va voir qu'on est un petit peu en retard quand même par rapport à l'étranger. Et puis, les prévisions pleuvent, on en a parlé il y a quelques instants avec celle d'Éric Larchevêque, mais aussi celle de beaucoup d'autres. On va voir comment les appréhender et voir s'il faut s'en méfier. Et puis, Bitcoin serait un investissement magnifique, selon BlackRock, quand même le premier gestionnaire d'actifs de la planète, conseille d'en avoir 2% en portefeuille. Et puis, Bitcoin toujours. Un chantage a lieu entre le FMI et le Salvador. Il y a quand même un prêt de 1,3 milliard de dollars en jeu, on en reparlera dans un instant. Et puis Microsoft dit non à une réserve stratégique, enfin une réserve tout court de Bitcoin. On en parlera aussi. Et puis on va faire le point sur les nouvelles tendances avec notamment Fee Switch. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas vous allez le savoir. Et ça peut vraiment, vraiment changer beaucoup de choses dans l'écosystème crypto. On commence tout de suite avec vous, Claire Balva. Claire, avec ce baromètre Consensus 2024, il y a quand même des chiffres intéressants qui sont sortis. On voit que l'adoption est croissante. Le premier chiffre, bon, je l'ai cité en introduction, sur lequel on peut revenir, c'est quand même 91% des Français auraient déjà entendu parler de crypto. C'est plus que l'année dernière.
Oui, ça augmente. Et puis au niveau mondial, c'est 93%. Donc c'est un chiffre colossal qui est en légère augmentation. Alors ce rapport, je l'ai lu en détail. Moi, ce qui me frappe, c'est que les chiffres sont extrêmement élevés. J'étais moi-même surprise de voir un tel niveau d'adoption, tant en termes de connaissances, mais surtout en termes de détention. On voit certains pays, alors comme le Nigeria, où là, on a 84% de taux d'adoption des crypto-monnaies. Et puis, d'autres pays qui tournent autour des 50%. Je pense aux Philippines, par exemple. Turquie, c'est 44%. Aux États-Unis, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Et donc, ce sont des chiffres qui sont nettement plus élevés que les ordres de grandeur qu'on avait en tête, qui souvent étaient 30% moins élevés. Donc, voilà, moi, je m'interroge pour savoir s'il n'y a pas une légère surestimation dans ce rapport. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour l'adoption des cryptos en général. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une vraie différence entre les pays dits émergents et les pays occidentaux, l'Europe, les États-Unis, l'Asie. Et on voit que dans certains pays, et notamment en Afrique, il y a vraiment une adoption très très importante qui va plus vite, avec aussi une opinion publique plus favorable aux cryptos. On voit par exemple qu'il y a des questions qui ont été posées comme est-ce que les crypto-monnaies sont une technologie bonne pour l'environnement ? Et on voit que l'opinion, par exemple, est très différente selon si vous êtes africain, par exemple, ou japonais, ou européen, etc. Et donc, on voit bien que les pays émergents, statistiquement en tout cas, sont plus favorables à ces outils-là qu'on peut l'être en France.
Et alors, comment on peut l'expliquer, Claire, rapidement ? Pourquoi les pays émergents sont plus favorables ? C'est parce qu'ils ont peut-être un système bancaire qui marche moins bien ? C'est comme ça qu'on peut l'expliquer ? Ou alors, il y a d'autres facteurs qui pourraient l'expliquer, justement ?
Alors, ce n'est pas dit dans le rapport, mais effectivement, on peut faire plein d'hypothèses.
Oui, c'est des suppositions.
Voilà, on peut faire une première hypothèse qui est que quand vous avez un système économique qui est moins stable, quand vous avez plus d'inflation, quand vous êtes soumis à plus de pression de la part du FMI, en fait, toutes les solutions alternatives vous paraissent quand même un peu plus attractives que les solutions traditionnelles que vous utilisez depuis des dizaines d'années. Je pense qu'il y a peut-être un côté revanche aussi qui est vu avec les crypto-monnaies. Dans ces pays-là, on se dit je vais aller utiliser les crypto-monnaies parce que finalement je me sens délaissée dans le monde en général et je vais essayer de trouver autre chose pour devenir riche ou pour m'affranchir parfois aussi des commissions très importantes qui sont prises dans le cadre des transferts internationaux. Donc il y a plein de raisons possibles qui sont pas détaillées dans ce rapport, mais on sent en tout cas qu'on est un peu plus conservateur en Europe, en Asie ou même en Amérique du Nord que dans les pays émergents.
Et alors il y a plein de chiffres dans ce rapport, mais un chiffre quand même clair, 50% des Français comprendraient de quoi il s'agit les cryptos. Ouais. Moi ça me paraît hyper élevé comme chiffre. Ça veut dire on a plus de précision là-dessus ou on ne sait pas vraiment. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait quand même plus de 30 millions de personnes là en France qui sauraient vraiment, qui comprendraient ce que c'est.
Ouais, alors il y a quand même des critères d'âge. Donc il me semble que les personnes âgées par exemple ne sont pas interrogées, ce qui aide aussi à faire monter certains chiffres. Faut bien voir que c'est du déclaratif. Donc c'est pas parce qu'on déclare comprendre en gros de quoi il s'agit qu'on comprend vraiment en profondeur. Mais effectivement, on voit que la proportion de gens qui en ont déjà entendu parler et ont commencé à s'approprier un peu le sujet est en très nette progression. Et ça, c'est une bonne chose parce que jusqu'ici, on avait des résultats élevés sur, on va dire, j'ai entendu parler des crypto-monnaies, mais la plupart des gens disaient, voilà, en gros, j'ai lu un article, mais j'ai jamais creusé, et puis ça m'intéresse pas trop, et finalement, je n'y comprends rien. Et là, on voit bien qu'il y a cette curiosité et qu'il y a une compréhension qui s'améliore.
Effectivement, on voit les cryptos qui se démocratisent de plus en plus, et bon, ça va aussi avec le prix. Et en plus, Thibaut Boutroux, quand le prix monte, et ben aussi, il y a de plus en plus de déclarations, de prévisions de prix qui peuvent être réalistes ou moins réalistes pour d'autres. On a eu sur ce plateau, par exemple, quelqu'un de chez Keiko qui nous prédit un bitcoin à 120 000 $ le 27 décembre prochain. C'est quand même assez précis. Qu'est-ce qu'on peut... Il faut quand même faire attention, j'imagine, Thibaut, à toutes ces prévisions-là. Est-ce qu'il y en a qui peuvent être fiables? Ou alors, sinon, faut-il s'en méfier, tout simplement?
Oui, effectivement, on peut lire vraiment beaucoup de choses sur ce moment. Naturellement, le contexte est propice et ces déclarations sont écoutées et touchent une audience, donc on les partage volontairement beaucoup plus. Alors, on en a des optimistes qui vont nous promettre un bitcoin à 120, 130, 150, des très optimistes qui vont encore plus loin. On en a quelques pessimistes, elles sont quand même beaucoup plus rares en ce moment. C'est un bruit de fond que j'aime bien. J'en avais parlé il y a quelques mois sur le plateau. Je trouve que c'est un indicateur intéressant qui permet à peu près de nous situer aussi dans le cycle. Après, pour parler des analyses en tant que telles et des chiffres qui sont partagés, le chiffre n'est pas vraiment important. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Les arguments, globalement, c'est beaucoup des suppositions, c'est beaucoup des si. C'est assez normal d'ailleurs, parce que la réalité, c'est que personne ne peut promettre avec exactitude le prix du Bitcoin dans X temps. C'est d'ailleurs le principe d'une prévision. Hein. Il y a des convictions, mais pas forcément de certitude. Et il faut aussi, quand on voit tous ces messages circuler, vraiment mettre en action son esprit critique et s'interroger du pourquoi, du comment on nous passe ce message. Qui passe le message? Quel intérêt il a à passer ce message-là? Est-ce que c'est uniquement il le partage parce qu'il a des vraies convictions, il a fait une véritable analyse et sa prévision est documentée? Ou est-ce que c'est simplement pour créer aussi, alimenter cet effet d'engouement, ce fameux FOMO dont on parle beaucoup? Généralement, ceux qui s'expriment sur le sujet sont des gens qui détiennent de la crypto, donc il peut y avoir aussi un certain conflit d'intérêts derrière les déclarations. Donc il faut vraiment les bien mettre ça en perspective pour accorder la juste valeur.
J'ai l'impression qu'on vous perd un petit peu, Thibaut.
Que finalement,
ouais, j'ai l'impression qu'on...
Non, vous m'entendez?
Petit problème de connexion, je vous redonne la parole dans quelques instants. Bon, Claire, c'est intéressant ce que nous dit Thibaut. Et puis, de toute manière, c'est aussi important de le préciser, quand bien même on arriverait à la prédiction en question, il y a des chances qu'on ait encore un marché cyclique et que le prix rechute derrière. Et donc, c'est pas parce qu'on arrive à 120 000 $ en décembre qu'il va y rester éternellement. Donc, soyez prudent, Claire. Est-ce que vous vouliez réagir à tout ce qui a été dit?
Oui, alors, c'est mon troisième cycle. Déjà, donc, ce que je constate quand même, c'est que quand Bitcoin passe un seuil, donc là, on a passé le seuil des 100 000 $, tout le monde se met d'un coup à fantasmer sur le seuil suivant. Et donc là, depuis quelques temps, je vois des prévisions sur Bitcoin à 1 000 000 $, à quelle échéance, etc. Alors, sans vouloir vraiment mouiller là-dessus, moi je dirais quand même que au dernier cycle, j'avais déjà entendu beaucoup de prévisions sur un Bitcoin à 100 000 $ qu'on n'avait finalement pas atteint au cycle précédent. Et donc, on est dans un moment où il y a beaucoup d'euphorie et où en fait, 99% des prédictions qu'on entend sont des prévisions à la hausse. Et effectivement, c'est normal. Je pense que la plupart des experts s'accordent pour dire que la tendance est haussière. Mais on voit parfois cette euphorie qui atteint des niveaux qui me semblent, voilà, un peu dénués de réalisme. Et donc, il faut quand même faire attention et bien garder la tête froide. Et je pense notamment aux personnes qui s'étaient fait un plan, par exemple, de sortie d'investissement en se disant, voilà, je vais sortir une partie de mes bitcoins quand ça va atteindre 90 000, 100 000, etc.
Il faut s'y tenir, quoi.
Faut s'y tenir. Et là, c'est vraiment le moment où ça devient difficile de s'y tenir parce que quand vous vous connectez sur un réseau social, vous voyez tout le monde qui dit, ouais, ça va atteindre 250 000 dollars, non, 1 million de dollars, etc. Et donc, vous vous sentez un peu bête de vendre parce que tout le monde vous dit, ça va continuer à monter. Mais il faut vraiment essayer de rester rationnel et pas succomber à l'euphorie publique.
Là, tout de suite, on va parler pas d'une prévision, mais d'une recommandation. Et pas n'importe laquelle, puisque c'est celle de BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. On rappelle, pour mise en contexte, que BlackRock fait partie des sociétés qui émettent un ETF à Bitcoin Spot depuis le mois de janvier dernier aux États-Unis. Et ils conseillent carrément, ils font un petit peu une liste, entre guillemets, enfin une recommandation. Ils disent, voilà, on vous conseille d'avoir 2% de Bitcoin en portefeuille. Qu'est-ce que ça vous inspire, Claire, cette déclaration-là?
Ça ne me surprend pas du tout. En fait, pour moi, ça arrive un peu tard, parce qu'il y a déjà d'autres gestionnaires d'actifs qui avaient fait ce type d'estimation. Je pense notamment à Yves Chouffati et Tobam en France. Je pense que ça doit faire au moins 5 ans qu'ils ont estimé cette dose de 2% et qu'ils disent, voilà, il faut avoir à peu près 2% de Bitcoin dans son portefeuille pour diversifier. Donc, c'est un chiffre qui est relativement connu des investisseurs et des gestionnaires d'actifs. Donc franchement, aucune surprise pour moi. C'est vrai que c'est symbolique que ça soit BlackRock, qui soit voilà, ce géant, qui donne ce chiffre-là et qui l'assume. C'est un signal positif de plus. Je veux dire, on n'est pas en train de réinventer la roue. Hein. C'est quelque chose qui est assez classique.
Bon, puis ça, c'est intéressant parce que, comme je l'ai dit là, finalement, c'est maintenant le Bitcoin est sur la brochure de BlackRock. Donc évidemment, ils ont aussi intérêt à donner ce genre de conseils, entre guillemets. Thibaut, on a aussi, bon, on parle des engouements du prix, de plein de gens qui étaient là, qui sont partis, qui reviennent, et puis même des nouveaux qui ne connaissent pas forcément l'écosystème, qui arrivent en masse, là, en quelques jours, quelques semaines. Et du coup, il y en a qui en profitent pour créer des arnaques, tout simplement, pour essayer d'arnaquer des nouveaux, et pas que, forcément. Quel conseil on pourrait donner un petit peu aux gens, notamment aux nouveaux entrants sur ce marché, pour éviter de se faire piéger?
Ouais, malheureusement, c'est un phénomène qu'on constate de plus en plus. Alors, j'insiste sur le fait que les cryptos sont souvent utilisé comme prétexte par les arnaqueurs qui voient un moyen de toucher du monde, mais c'est rarement le sous-jacent qui est utilisé derrière. C'est-à-dire que la pratique et le mécanisme qu'il y a derrière, c'est le même qui est utilisé sur toutes les classes d'actifs ou pour vendre des solutions de trading ou de métaux précieux, etc. Là, on utilise juste le sous-jacent crypto pour appâter en fait sa victime. Là où faut être vigilant, c'est que les techniques sont beaucoup plus sophistiquées que ce qu'on a pu voir notamment sur le dernier cycle, parce qu'avec des nouveaux outils avec l'IA, avec l'accès plus simple à des bases de données, etc., on peut faire des choses beaucoup plus personnalisées, donc c'est parfois plus difficile à déceler. Globalement, ce qu'il faut, les quelques points qu'il faut avoir en tête et ce qu'on constate qui est en train de se propager, c'est que aucune plateforme régulée sérieuse, que ce soit Meria, Binance, Coinbase, Coinhouse, etc., aucune personne de ces entreprises ne vous contactera directement sur votre numéro personnel pour vous proposer une quelconque opportunité d'investissement inédit, encore moins sur un canal exotique comme WhatsApp, comme Telegram, comme n'importe quelle autre messagerie, encore moins un responsable ou une personne de la direction de ces entreprises, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas le droit légalement, c'est-à-dire que ce type de démarchage est légalement interdit, donc aucune plateforme ne s'y risquerait. La deuxième chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est faut pas hésiter à faire un double check, c'est-à-dire que si on a un doute, si la personne qu'on a en ligne nous paraît convaincante, en fait rien n'empêche d'aller écrire au support de la plateforme en parallèle, juste pour vérifier l'information. Les supports sont relativement réactifs aujourd'hui, quelques heures pour les plus rapides, 24 heures pour ceux qui vont être le moins réactifs. Il n'y a aucune opportunité d'investissement aujourd'hui qui est distribuée par une plateforme sérieuse qui implique de se positionner en moins de 24 heures. Donc, n'hésitez pas à faire ce travail de double check. Je le dis parce qu'on voit beaucoup de victimes en ce moment qui viennent nous voir, donc c'est important. Et après, les rappels de base, ne jamais partager d'informations confidentielles, mot de passe, code d'authenticité, etc. Ne jamais partager ça par téléphone. Les plateformes n'en ont pas besoin. Il y a juste des personnes qui vous veulent du mal, qui vont en avoir besoin. Donc, c'est important. Et j'insiste aussi parce que c'est peut-être des messages qui paraissent un peu bateaux et un peu évidents pour les acteurs de l'écosystème. Mais il faut bien avoir en tête qu'en tant qu'acteur, on a aussi une responsabilité de véhiculer ce message, parce que plus ces arnaques vont se propager, plus ça va continuer à véhiculer une image que c'est les cryptos qui sont responsables de ça, et ça va abîmer un petit peu l'image globalisée de l'écosystème. Donc en tant qu'acteur, on a aussi tout intérêt à partager ce travail d'éducation pour éviter que des gens tombent dans les pièges et continuent à s'éduquer pour avoir une expérience finalement crypto qui soit la plus proche de la réalité et la meilleure possible.
Effectivement, et les conseils que vous donnez, ça s'applique aussi aux autres conseils, aux investissements classiques, même en banque, etc. Claire, Malva, vous vouliez compléter?
C'est vrai qu'on voit une résurgence d'arnaques en ce moment. Bizarrement, quand les cours étaient au plus bas, il y avait très peu d'arnaques, ça marchait pas, parce que finalement le public était assez peu réactif et répondait à ces
pièges. Il y avait un public averti, plus averti que des nouveaux entrants.
C'est ça, c'est-à-dire que les nouveaux entrants étaient moins tentés. C'est-à-dire que quand vous receviez une arnaque qui vous dit est-ce que tu veux acheter du Bitcoin, en fait, la plupart des gens disaient non, mais c'est mort finalement Bitcoin. Alors qu'aujourd'hui, avec les cours qui remontent, c'est beaucoup plus facile d'aller convaincre quelqu'un d'acheter de la crypto. Donc c'est pour ça qu'il faut être d'autant plus vigilant.
Avec effectivement ce FOMO ambiant auquel on assiste. Claire, il y a aussi quelque chose qui se passe du côté du Salvador. Le Salvador, on en a beaucoup parlé ici parce qu'en 2021, ce pays a adopté la lei Bitcoin, a adopté Bitcoin en monnaie légale. Et là, il y a quand même un prêt du FMI d'une valeur de 1,3 milliard de dollars qui pourrait être accordé au Salvador, mais il y a une histoire de chantage entre les deux, entre le FMI et le Salvador. Le FMI qui dit au Salvador, on veut bien vous prêter, mais à condition que vous enleviez l'obligation pour les commerçants d'accepter le Bitcoin, c'est ça, Claire ? Il y a une sorte de chantage entre les deux.
C'est ce que rapporte la presse, mais il n'y a pas encore de commentaires de la part du gouvernement du Salvador. Donc, information quand même à prendre avec des pincettes, mais effectivement, ce qu'on comprend, et ce qui n'est pas nouveau, c'est que le FMI n'aime pas du tout cette loi Bitcoin qui a été mise en place au Salvador, qui considère que c'est une menace pour la stabilité monétaire. Et donc, maintenant qu'il doit effectivement prêter de l'argent au Salvador, un peu plus d'un milliard de dollars, dans les conditions qui sont demandées pour accorder ce prêt, il y a limité le champ d'application de cette loi Bitcoin, notamment en retirant l'obligation aux commerçants d'accepter le Bitcoin. Et on ne sait pas tellement ce que va faire le gouvernement salvadorien. C'est vrai qu'au Salvador, l'immense majorité des citoyens n'utilisent pas Bitcoin aujourd'hui pour payer au quotidien. Donc on comprend qu'ils soient tentés finalement par faire cette concession qui ne coûterait pas grand-chose à leur population. D'autant plus que la plupart des gens au Salvador ne comprennent toujours pas vraiment quel est ce délire avec Bitcoin, même si certaines personnes s'en sont emparées. Ça reste une petite minorité, moins de 10% de la population. Donc affaire à suivre. Maintenant, ça ne veut pas dire que le gouvernement ne croit plus dans Bitcoin. Ils ont toujours une réserve assez importante dans cette monnaie-là. Donc on n'a pas énormément d'informations, à vrai dire. On va voir ce que ça donne.
Du côté de Microsoft, Thibaut Boutroux, il y avait une proposition qui avait été faite d'investir 1% de la trésorerie de Microsoft en Bitcoin. Et puis finalement, cette proposition-là a été refusée. Qu'est-ce qu'on sait de plus sur comment ça s'est passé et qui a refusé concrètement ?
Ouais, globalement ça a été refusé. D'ailleurs, ça a été il y a très peu de personnes qui se sont positionnées favorablement sur la demande. Alors après, c'était une proposition parmi beaucoup d'autres. Donc en réalité, quand on regardait les détails, il y avait très très peu de chances que ce soit approuvé. Ça aurait plutôt été une surprise en fait que ce soit dans l'autre sens. Ce qui est intéressant, c'est que le sujet a été porté jusqu'au board. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ça veut dire que ce sujet-là, d'ailleurs, quand on parle de réserve, on parle des États, mais on parle aussi des grandes entreprises, c'est un sujet qui est de plus en plus mis sur la table. On a des dossiers aujourd'hui qui sont sur la table de beaucoup d'entités, que ce soit des États ou des entreprises. C'est vraiment ça, le signal intéressant. Ça va être... je pense un des points qui sera très largement surveillé en 2025 par les investisseurs, puisqu'on va arriver à ce momentum où en fait on va attendre que beaucoup considèrent le sujet. Certains sont prêts, d'autres moins, mais il y en a beaucoup aussi qui sont dans l'attente qu'un autre se positionne en fait. Donc à partir du moment où on va avoir d'une envergure suffisamment importante qui prend la position, très certainement que ça va obliger d'autres qui sont du même calibre à reconsidérer. On va jouer un petit peu le même jeu qu'en fait qui s'est joué avec quand BlackRock a pris position sur le sujet crypto. Ça a forcé un certain nombre de gestionnaires d'actifs de considérer le sujet et de s'activer beaucoup plus rapidement. On va se retrouver un peu dans la même configuration avec des entreprises pour de la diversification de trésorerie, mais aussi avec des États sur ce fameux sujet de la réserve. Donc il faut vraiment le regarder sous cet angle-là. Et après, il ne faut pas non plus prendre ces refus comme des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'était pas forcément attendu il y a longtemps. Évidemment que ça peut être un catalyseur et ça peut changer pas mal de choses, mais ce n'est pas parce qu'on a un Microsoft qui refuse de mettre du Bitcoin dans sa trésorerie aujourd'hui qu'il ne le fera pas demain, ou alors même s'il décide de ne jamais le faire, que c'est une mauvaise nouvelle pour Bitcoin, puisque à la base, ça n'a pas non plus été conçu pour ça.
Oui, effectivement. Puis on a quand même attendu 10 ans pour avoir des ETF Bitcoin Spot, et puis finalement, on a fini par les avoir. Thibaut, toujours, on va parler un petit peu des nouvelles innovations, des nouvelles tendances qu'il peut y avoir en ce moment. Et puis, il y a quand même quelque chose qui s'appelle Fee Switch. Je ne sais pas si je le dis bien, vous me direz. Et ça pourrait résoudre quand même le problème de l'absence de valeur intrinsèque de certains tokens utilitaires, Thibaut.
Ouais, tout à fait. Alors c'est un mécanisme qui va parler certainement aux aficionados de la DeFi, puisque c'est pas tant un mécanisme qui est nouveau, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un certain temps, qui a déjà été expérimenté à plus ou moins grande échelle. Par contre, on est dans un momentum où, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, on commence justement à avoir des premiers effets de cet assouplissement réglementaire côté US qui amène justement des opportunités. Donc là, on parle de l'univers de la finance décentralisée avec le FiSwitch, qui est un mécanisme qui permet en fait au protocole DeFi, donc au protocole de finance décentralisée, de distribuer une partie de leurs bénéfices aux détenteurs du token natif du protocole. Donc c'est un mécanisme qui permet d'aligner un petit peu les intérêts de gouvernance et les intérêts économiques du protocole de ses utilisateurs, des détenteurs de token. Donc c'est un outil supplémentaire qui permet effectivement d'apporter un peu plus de valeur dans un token, qui permet d'apporter une incentive supplémentaire et une raison supplémentaire d'utiliser un protocole. Alors, ce qui est intéressant surtout là, pourquoi c'est quelque chose qui va potentiellement être intéressant à suivre, c'est que ça redonne beaucoup d'attractivité à la DeFi. Ça fait partie des narratifs qui redonnent beaucoup d'attractivité à la DeFi. D'ailleurs, on voit aujourd'hui les cours sur les dernières semaines des protocoles DeFi qui ont repris pas mal de valeur. On voit les TVL qui commencent à réaugmenter. Donc, c'est plutôt sous l'angle-là qu'il faut le regarder. C'est un mécanisme supplémentaire. On est vraiment sur de l'expérimentation, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être essayées, il y a des ajustements qui vont se faire. Mais en tout cas, on voit que l'assouplissement réglementaire permet de nouveau de l'innovation sous certaines verticales, et ça, c'est intéressant.
Claire Balva, il nous reste quelques secondes, mais rapidement, on nous a un sujet un peu plus léger. Dans la rédaction ce matin, pas mal de personnes me demandaient, mais qu'est-ce qu'on peut offrir comme cadeau crypto, entre guillemets, à des gens qui n'en ont pas? Est-ce que vous avez des idées à suggérer? Alors, on parlait de clé Ledger, alors c'est bien, par exemple, mais c'est vrai que une clé, si la personne n'a pas encore de crypto, c'est pas forcément utile. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, si vous avez des idées comme ça à donner.
Alors, vous pouvez offrir une clé Ledger, mais l'idéal, c'est d'offrir les cryptos avec. Donc, ça commence à faire un joli cadeau.
Forcément. Mais on est d'accord, on ne peut pas offrir de crypto à quelqu'un qui n'a pas de compte crypto, c'est compliqué.
Alors, vous pouvez, mais moi, ce que je conseille, c'est de prendre un peu de temps avec cette personne pour l'aider à créer son portefeuille. Et après, vous lui envoyez les cryptos sur son portefeuille. Et donc, le cadeau, c'est à la fois les cryptos que vous lui envoyez, mais aussi le temps d'acculturation que vous passez avec elle. Maintenant, l'idée, c'est pas de forcer les gens à aller dans la crypto s'ils en ont pas envie. Donc, essayez quand même de vous assurer qu'ils sont curieux sur ce sujet. Mais effectivement, je pense que le mieux, c'est d'offrir des cryptos et puis d'offrir un peu de conseils aussi sur comment les stocker.
Voilà, le service après-vente. Et puis aussi, il y a votre livre, Bitcoin et crypto-monnaie facile. Voilà, un livre bleu maintenant, désormais dans sa nouvelle édition, à offrir à Noël, par exemple, si vous voulez aider les gens, vos proches, à comprendre un petit peu cet écosystème. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Claire Balva, directrice de la stratégie de Dbloc. Thibaut Boutrou, cofondateur de Meria, à lundi 15h pour le club BFM Crypto.
BFM Business, BFM Crypto, le club.